physicien, philosophe, humaniste, prix Nobel. Génie, Einstein a marqué son époque et notre mémoire collective. Retour sur le parcours de celui que le Time Magazine a élu homme du XXe siècle avec Nicolas Bogaerts.
13h30, 14h30, sur la première.
Un jour dans l'histoire.
L'humanité lui doit la théorie de la relativité, sans doute l'aspect le plus connu de son apport à la connaissance scientifique. Pourtant, ce n'est pas le moindre de ses legs à notre époque moderne. Derrière l'image populaire et les clichés qui collent à Einstein, il y a un parcours singulier, complexe, qui dépasse, mon cher Nicolas, l'icône de la pop culture qu'il est devenu.
Oui, alors mon cher Laurent, pour percer à jour les mystères et les idées reçues sur Albert Einstein, né comme vous le savez en 1879 à Ulm et mort en 1955 à Princeton aux États-Unis, j'ai demandé à Franklin Lambert, professeur émérite de la VUB, auteur de Petit pays, grande destinée, Einstein et la Belgique, de commenter le documentaire Albert Einstein, l'homme et le génie, réalisé par Nadège de Manet, qui sera diffusé ce vendredi à 23h10 sur la Une. Alors j'ai eu donc la primeur sur la discussion qu'il aura avec Élodie de Sélis, ça ne se refuse pas. Alors Franklin Lambert revient donc également avec moi sur la relation importante et grandement méconnue d'Einstein avec notre petit pays, la Belgique. Einstein, figurez-vous, avait un oncle maternel, César Koch, installé à Anvers dans les années 1890, et c'est lui qui aidera le jeune Albert à se lancer dans des études, alors que petit, il a quand même un souci manifeste avec l'autorité et l'école.
Albert Einstein, né en pleine révolution industrielle. Le 19e siècle est riche en avancées technologiques et scientifiques. Une science toute nouvelle voit le jour. Une science mettant en jeu des forces que l'on ne voit pas à l'œil nu. Les chercheurs découvrent l'infiniment petit, et avec lui, l'électromagnétisme. C'est dans ce contexte que le petit Albert grandit, choyé par son père Hermann Einstein, ingénieur et propriétaire d'une usine d'électrochimie, et sa mère, Pauline Koch, amatrice de piano qui transmettra la passion de la musique à son fils. Albert est un jeune garçon solitaire, au caractère trempé.
Il y a une crise terrible au moment où Einstein va avoir 16 ans. Il n'a pas encore 16 ans. Il se trouve tout seul à Munich. Ses parents sont en Italie. Il en a marre de cette école militariste. Et donc, il décide un beau jour de partir. Il rejoint ses parents à Milan. Et il dit à son père, ben voilà, c'est fini. Moi, je ne finirai pas mon école. Il n'en est pas question. Et d'ailleurs, je renonce à ma nationalité allemande. C'est la catastrophe totale. Le père se dit, comment, mais tu ne seras jamais ingénieur, moi qui fondais tous ces espoirs sur toi. Et en plus, apatride. L'oncle César a dit, il n'y a pas de souci. Tu ne finis pas ton école secondaire. Il suffit que tu ailles à Zurich, à l'école polytechnique. Tu passes l'examen d'entrée et le tour est joué.
Pourtant, Albert Einstein va échouer à cet examen d'entrée.
Alors, il va échouer parce que, bien entendu, d'abord, il arrive trop tôt. Il n'a pas l'âge. Et qu'en plus, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui est très doué dans certaines matières, mais qui a probablement des difficultés dans d'autres. Donc, à un moment donné, on se rend compte que c'était prématuré, qu'il devait d'abord faire une école intermédiaire, une préparation à Harrow, ce qui va lui convenir parfaitement. Et donc, ce n'est qu'au bout d'un certain temps, aux deuxième tentative, qu'il va obtenir cette inscription. Et c'est l'oncle qui va payer les 800 francs suisses pour qu'il ait la nationalité suisse en 1900, à la fin de ses études. Ce n'est donc pas une question secondaire. Je crois que le rôle qu'a joué la famille... Quand on s'aperçoit, par exemple, que l'oncle César meurt au cours de la Deuxième Guerre mondiale à Cour-Saint-Étienne, où il vit, et qu'il est toujours citoyen suisse, on comprend après 50 années de Belgique ce que pouvait représenter la citoyenneté suisse, qui d'ailleurs l'a protégé pendant la guerre, n'est-ce pas ?
Dans quelles circonstances Albert Einstein va-t-il commencer à s'intéresser à l'observation des phénomènes physiques ?
On parle toujours de la boussole, qui à mon avis, toujours un témoignage familial qui vaut ce qui vaut, est aussi un, non pas le cadeau du père, mais de l'oncle, parce que l'oncle voyageait et... Nous avons la preuve que l'oncle lui faisait des cadeaux très pédagogiques. En fait, je crois que, bien sûr, Einstein se pose des questions, comme je vous disais, que tout le monde ne se pose pas. On sait qu'à l'âge de 15-16 ans, il écrit son premier petit article scientifique. Il s'agit pour lui d'étudier l'état de l'éther dans des champs magnétiques. Et puis, il s'intéresse à la lumière. Donc on dit toujours, et on le dit dans le documentaire, il s'est dit que se passerait-il, puisqu'on considère que la lumière est une onde qui se propage avec une vitesse bien déterminée, et que se fait-il si je suis un observateur qui n'est pas simplement assis sur sa chaise, mais qui suit le rayon lumineux. À ce moment-là, eh bien, il n'y a plus de propagation. Or, à ce moment-là, on se trouve sur une difficulté. Si on considère qu'on peut suivre ce rayon de lumière. Donc, si vous voulez, cette réflexion l'a amené petit à petit à se poser des questions sur le rôle de l'espace et le temps. Et au bout de 10 ans, il va écrire cet extraordinaire papier de 1905 sur l'électrodynamique des corps en mouvement, qui est au fond le résultat de quelque chose qui a mûri pendant une dizaine d'années. Au même moment, il écrit d'autres papiers. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'on se dit, mais il s'occupe de tellement de choses à la fois. Bien entendu, il y a des dénominateurs communs, c'est-à-dire il y a une méthode. C'est un statisticien qui applique, au fond, des méthodes de statistique dans divers domaines. Et il va énoncer un postulat ou une hypothèse totalement révolutionnaire, celle des quantas de lumière. Le point de départ n'est pas l'observation expérimentale, ce sont les principes. Il va appliquer des principes et il va se rendre compte qu'il y a une difficulté avec la théorie électromagnétique usuelle, et ça va l'amener, si vous voulez, bon, ce serait trop long d'entrer dans le détail, mais donc il va formuler cette hypothèse des quantas, non pas sur base de l'effet photoélectrique, sur la base des principes qu'il a utilisés. Il fait un travail vraiment indépendant de ce qui a été fait avant, et il arrive à cette extraordinaire idée que non, la lumière ne serait pas uniquement une onde, il y a des grains d'énergie apparemment qui seraient des quantas. Ça le désarçonne complètement, parce qu'il se dit, mais alors comment est-ce qu'il faut concilier deux aspects complètement contradictoires? Ça va être un très long questionnement qui va beaucoup le perturber, et personne d'ailleurs ne va accepter son hypothèse, qui ne sera vérifiée qu'une dizaine d'années plus tard.
Alors justement, dans ces premières années, entre 1900 et 1905, hein, c'est là où il rédige les 3-4 articles importants, hein, oui, qui vont vraiment révolutionner la science. Il est à ce moment-là employé au bureau des brevets à Berne. Ce sont des années de vache maigre, évidemment. Oui. Et il est en train vraiment de semer les graines de ce qui deviendra plus tard son succès, si je puis dire. Là-dedans, il y a effectivement la théorie de la relativité.
Oui.
C'est cette théorie-là qu'on a retenue. C'est une théorie qui mettra du temps avant d'être reconnue.
Elle mettra beaucoup du temps à être vérifiée expérimentalement. La loi E égale MC carré, c'est je crois ce qu'on connaît le mieux d'Einstein, ça ne sera vérifié de manière rigoureuse qu'en 1932, voyez. Et c'est à Bruxelles d'ailleurs qu'on annonce la vérification. C'est assez intéressant.
Il y avait là, au dehors, le vaste monde qui existe indépendamment des hommes et se dresse devant nous comme une énigme, grande et éternelle, mais partiellement accessible à notre perception et à notre réflexion.
Ces mots qu'on vient d'entendre là sont ceux d'Albert Einstein. Ils illustrent le documentaire Albert Einstein, l'homme et le génie, réalisé par Nadège Demanet, diffusé ce vendredi à 23h10 sur la Une. Nicolas, alors de la théorie de la relativité restreinte à celle de la relativité générale, il n'y a pas qu'un pas. Hein.
Non, et je serais bien en peine de pouvoir vous l'expliquer, mon cher Laurent, parce que moi, franchement, la physique, c'est pas vraiment mon rayon. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faudra effectivement des années, des décennies pour que le lien soit fait entre les deux théories. 10 ans, hein, entre la théorie restreinte, la relativité restreinte et la relativité générale, qu'elle soit reconnue par le monde scientifique. Mais c'est une expérience toute particulière qui va mener à la reconnaissance planétaire de la théorie de la relativité. Franklin Lambert, par contre, nous raconte les prémices de ce qui fera de Einstein une véritable star.
Il faudra attendre encore quelques années pour que la théorie de la relativité générale soit propulsée au devant de la scène. Albert pensait qu'il était possible de prouver la théorie de la relativité générale lors d'une éclipse solaire. Il pensait qu'à cette seule occasion, il serait possible d'observer les rayons lumineux d'un groupe d'étoiles déviés par la masse du Soleil et donc d'apporter la preuve de la déformation de l'espace-temps.
La relativité qui l'a vraiment rendu célèbre, ce n'est pas ce premier pas. Mmh. C'est quand il a généralisé sa théorie, et ça lui a pris environ 7 ans, 7-8 ans, et en 1915, à ce moment-là, il est à Berlin, il est à l'Académie, si vous voulez, bon, et il est dans cette maison de fous, qu'est l'Allemagne de la Première Guerre mondiale. Et il va s'isoler complètement et il va travailler comme un damné pour sortir, si vous voulez, la relativité générale donc, et la théorie de la gravitation. Et à ce moment-là, il n'est pas encore célèbre, si vous voulez, mais ce qui se passe, c'est que juste après la Première Guerre mondiale, vous avez une équipe anglaise, enfin britannique, qui va voir si les prédictions de sa théorie de la gravitation sont vérifiées au moment d'une éclipse. Il y a moyen de voir si effectivement la lumière est déviée par la présence d'un corps très massif, dans ce cas-là, le Soleil. Et il faut attendre l'éclipse, parce que sinon, vous ne pouvez pas voir, bien entendu, les étoiles qui se trouvent à proximité du Soleil. Mais au moment de l'éclipse, il y a moyen. Et donc, c'est une expédition. Il y en a déjà eu une tentative avant, mais qui a échoué, à laquelle il s'intéressait. Mais celle qui va vraiment avoir beaucoup d'impact, c'est cette expédition de Eddington, qui va être, je dirais, l'impresario, si on peut dire, d'Einstein. Et alors, du jour au lendemain, vous allez avoir dans les journaux qu'un jeune physicien allemand a détrôné Newton. Ça, évidemment, ça a un retentissement considérable, surtout que ça fait rêver et qu'on a fort besoin de rêver après la Première Guerre mondiale.
C'est un bouleversement dans la façon dont on se figure le monde et le cosmos.
Oui,
aussi.
C'est un bouleversement. Déjà, à partir du moment où, et ça c'est en 1905, on considère que le temps n'est pas une donnée absolue, si vous voulez. Il n'y a pas un temps absolu pour tout le monde. Que le temps est lié à l'espace, que donc les observateurs ont leur temps à eux et que les relations vont dépendre de l'état de mouvement entre les observateurs. À ce moment-là, déjà, il y a une sorte de révolution, en tout cas dans l'interprétation. Il n'a pas été le seul à travailler là-dessus, mais c'est lui qui a réussi à formuler ça d'une manière très, je dirais, très concrète, enfin, ou relativement simple, relativement simple. Seulement, ce n'est qu'un premier pas, parce que les observateurs qu'il considère doivent toujours être en mouvement uniforme, l'un par rapport à l'autre. Donc, il y a des mouvements, enfin, l'idée, si vous voulez, le principe de relativité, qui n'est d'ailleurs pas, c'est pas lui qui l'a énoncé le premier, c'est Poincaré. Mais le principe de la relativité, essentiellement, ça dit que les lois de la physique doivent être les mêmes pour différents observateurs. Un observateur ne peut pas avoir des lois et puis un autre en aura d'autres. Alors, en 1905, il va montrer effectivement que ce principe joue pour des observateurs, mais qui sont en mouvement uniforme l'un par rapport à l'autre, un homme dans le train, un homme sur le quai, à condition que le train passe avec une vitesse constante. Et puis, en 1915, il aura franchi le pas en se disant « quid s'il y a des accélérations qui entrent en jeu ?» Et là, il a eu, avant cela, en 1907, parce qu'il y a une période creuse, si vous voulez, il y a une période entre 1907 et 1911 où il est silencieux sur la gravitation, il ne dit rien. Il s'occupe des quantas. À ce moment-là, il ne s'occupe que des quantas. Et puis, il a quand même eu une idée en 1907, cette idée dont on parle dans le documentaire, où il se dit, tiens, pour quelqu'un qui tombe, la gravitation n'existe plus. Elle est en quelque sorte reprise par l'accélération. Donc, à ce moment-là, il se dit, il y a une équivalence entre gravitation et effet de l'accélération. Donc, localement, il y a cette équivalence, qui est une idée extraordinaire, mais qui va devoir, évidemment, exploiter, et ça va lui prendre beaucoup de temps et énormément d'énergie et d'efforts.
Un des apports d'Albert Einstein, c'est l'idée qu'un peu de matière peut délivrer un maximum d'énergie. Alors, cette théorie-là, ou cette observation-là, à l'ère du nucléaire, à l'ère atomique qui démarre à partir des années 30, ça a contribué à cette image, cet impact d'Albert Einstein sur les sciences.
Quand la fission est découverte en 1939, Einstein se trouve déjà à Princeton depuis 6 ans. Il s'occupe de ce qui va l'occuper jusqu'à la fin de ses jours, c'est-à-dire essayer de créer une théorie, si vous voulez, dans laquelle l'électromagnétisme et la gravitation se trouveraient unifiés. Bon, il appelle ça la théorie du champ unifié. En 1939, on découvre la fission. Et donc, il y a possibilité, en principe, de tirer l'énergie qui se trouve coincée, si vous voulez, dans l'atome, par le biais d'une réaction en chaîne. Einstein n'est pas du tout dans cette affaire-là. Il n'a pas suivi ça. Et donc, on vient le trouver. Mmh. Et c'est quelqu'un qui va jouer un très grand rôle. Entre autres, c'est Léo Szilard qui va venir lui dire... Il y a un très grand danger, c'est que les Allemands ont une avance, parce que c'est eux qui ont découvert la fission, et il y aurait possibilité, s'il y a cette possibilité d'avoir vraiment une réaction en chaîne, ça pourrait donner lieu à des bombes, et donc il faut absolument veiller à ce que les stocks d'uranium belges du Congo ne tombent pas dans les mains des Allemands.
Les hommes ont arraché un nouveau secret. Comment désormais l'emploieront-ils ? La bombe atomique a gagné la guerre, la dissociation de l'atome servira-t-elle la paix ?
Extrait des informations françaises de 1945 qui relate